Salut, c'est Simon. Juste avant de passer à l'interview du jour, je voulais vous parler du programme de formation de la No Code Family. Alors ce programme, c'est pas une énième formation aux outils No Code, il y en a déjà plein sur internet et elles sont très complètes. Ici, il s'agit d'un programme complet qui va vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel ou dans le lancement de votre side project, et même si vous ne savez pas coder. Alors comment trouver son idée, quelles sont les erreurs à éviter, comment trouver ses futurs clients, comment créer son prototype, quelles sont les questions à se poser pour créer son statut, toutes ces questions sont abordées dans ce programme en vidéo, accessible à votre rythme. Alors rendez-vous vite sur www.nocode.family pour découvrir le programme et vous lancer dès aujourd'hui. Le lien est aussi disponible en description de l'épisode. Bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans No Code Family, le podcast qui t'aide à te lancer sans savoir coder.
Moi, je suis pas encore convaincu qu'on soit face à un vrai phénomène en tant que tel. Pour moi, le no code, c'est plutôt une espèce d'étape franchie dans un phénomène qui existe depuis beaucoup plus longtemps, qui est, on pourrait quasiment dire, les interfaces graphiques, quoi, ou plus largement, je dirais, la simplification de l'expérience utilisateur, quoi.
Chaque semaine, on rencontre celles et ceux qui développent leur business sans faire une ligne de code.
Et moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la flexibilité et la souplesse, pour répondre à la question, en fait, la souplesse que permet Notion dans la façon dont on va organiser son information.
Alors toi aussi, abonne-toi et rejoins la No Code Family. Salut Jonathan.
Salut Simon et merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Alors dis-moi tout, qui es-tu ?
Donc je m'appelle Jonathan Lefebvre, je travaille dans le web depuis une dizaine d'années déjà, essentiellement sur des sujets autour de l'expérience client et la productivité. J'ai notamment bossé dans une boîte qui s'appelle Capitaine Train, où je m'occupais justement de toute l'expérience client. Et là, je m'apprête à rejoindre une boîte qui s'appelle le Memo Bank, où je vais pouvoir continuer à bosser sur ces sujets-là. Et sinon, j'ai toujours été un gros fan d'outils de productivité en tout genre, notamment numérique. Donc, j'écris pas mal d'articles sur les outils qui simplifient mon quotidien. Et je crois que c'est un peu ce qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui, d'ailleurs.
Et exactement, parce que tu as effectivement commencé à beaucoup parler de Notion, dont on va parler aujourd'hui. Donc, fait partie un peu de cette galaxie d'outils no-code dont on entend de plus en plus parler. Avant de rentrer un peu dans le cœur du sujet, c'est quoi pour toi ta définition du no-code ?
Alors, c'est marrant parce que moi, je suis pas encore convaincu qu'on soit face à un vrai phénomène en tant que tel. Pour moi, le no-code, c'est plutôt une espèce d'étape franchie dans un phénomène qui existe depuis beaucoup plus longtemps, qui est, on pourrait quasiment dire, les interfaces graphiques, quoi, ou plus largement, je dirais, la simplification de l'expérience utilisateur, quoi. Et il se trouve que ces dernières années, je crois que l'humanité a bien accéléré sur ces thématiques-là, et du coup, dans un horizon de temps relativement restreint, on a commencé à voir apparaître pas mal d'outils qui sont devenu suffisamment simple pour donner des pouvoirs de conception technologique, on va dire, à des gens qui, jusque-là, en étaient un peu privés parce qu'ils ne savaient pas écrire du code, quoi. Et donc, pour moi, c'est un peu l'évolution récente d'une tendance qui est là depuis très longtemps, quoi, qui est la simplification de l'expérience utilisateur. Donc, voilà, c'est un peu ma lecture du truc. Je sais pas si elle est bonne, mais pour moi, c'est plutôt ça. C'est genre, dans l'histoire de la démocratisation des interfaces utilisateurs, récemment, on a possiblement passer un cap qu'on peut appeler no code si on veut, et en gros il y a de moins en moins besoin d'écrire des lignes de code pour réussir à créer des choses.
Comment tu en es venu à t'intéresser à ce sujet là toi? Est-ce que tu t'es toujours intéressé à ces interfaces utilisateurs et à leur simplification, ou est-ce que là le sujet du no code en tant que tel a été un peu particulier pour toi et tu t'es particulièrement penché dessus?
J'y suis venu assez naturellement parce que je fais partie de ces profils de personnes très geeks mais qui ne savent pas coder, ou en tout cas pas très bien. Et du coup, après, j'ai pas un intérêt hyper spécifique sur le no-code en tant que tel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les outils de productivité et l'expérience client, quoi. Mais il se trouve que ça se superpose assez bien avec cette nouvelle vague d'outils no-code, justement.
Ok, donc toi, parmi cette galaxie d'outils là de no code, tu t'es particulièrement intéressé à Notion. Pourquoi cet outil là plutôt qu'un autre finalement ?
Déjà j'ai toujours eu un fort intérêt personnel pour les sujets de prise de notes et de documentation au sens large, on va dire. Et par exemple, quand je travaillais chez Capitaine Train, on avait un wiki interne qui était vraiment hyper important pour la transparence de l'information. Pour moi, c'était un peu ce qui nous a permis de garder une bonne culture d'entreprise à mesure que l'équipe grandissait vite. Et pour moi, vraiment, toute la valeur de la boîte était là. Et donc, même nous qui étions pas trop mauvais sur ces sujets de documentation, on n'avait pas trouvé d'outils vraiment modernes pour gérer efficacement notre wiki, notre doc interne. Et c'est si bien que, en fait, j'ai failli me lancer moi-même sur ce créneau du wiki pour start-up, on va dire, qui est aujourd'hui florissant, mais à l'époque, franchement, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, j'ai arrêté de considérer ce projet le jour où j'ai découvert Notion, quoi. Donc, c'était début 2017, je crois, et là, je me suis pris, je pense, une des plus grosses baffes produits de ces 10 dernières années, et je me suis dit, ok, les mecs ont tout compris, ils ont déjà beaucoup trop d'avance, donc je vais faire autre chose. Et donc, ouais, enfin, plus généralement, moi, j'ai toujours pris pas mal de plaisir à documenter tout un tas de trucs dans ma vie. Et donc, ça m'a amené assez naturellement vers Notion parce que c'est un outil incroyable pour faire ça.
Alors, justement, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est, grosso modo, Notion, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Pourquoi est-ce que c'est si extraordinaire, d'après toi, cet outil-là?
Ouais, en fait, c'est vrai que c'est pas forcément facile à pitcher parce qu'il y a... Il y a des cas d'usage qui sont tellement infinis que c'est pas forcément évident. Et c'est pour ça que j'ai écrit un très long article d'ailleurs qui essaie d'expliquer tout ça. Mais donc, pour le définir quand même, pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce d'outil qu'ils appellent All-in-One. Et justement, c'est un des trucs qui m'a impressionné. J'y reviendrai après. Mais en fait, donc, je sais pas, il y a certains qui vont le voir comme un concurrent à des Evernote, par exemple, ou à des outils de prise de notes, mais bon, ça peut faire vraiment beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, en fait, c'est la flexibilité et la souplesse, pour répondre à la question, en fait, la souplesse que permet Notion dans la façon dont on va organiser son information.
Quand même, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que Notion, au départ, quand tu arrives sur l'outil, c'est une page blanche. C'est comme si tu ouvrais un document Word, en fait, pour schématiser un peu. Sauf que c'est beaucoup plus puissant dans sa capacité, comme tu le disais, à aller se connecter avec d'autres outils, à pouvoir organiser l'information au sein de ce document et au sein des différents documents que tu vas gérer avec Notion. Mais au départ, c'est une page blanche, en fait, finalement.
Exactement, et c'est ça qui garde une certaine simplicité sur le produit. Et en fait, la plupart des outils qu'on va utiliser pour, on va dire, gérer de l'information au sens large, ils vont tendre à imposer une certaine structure, on va dire, qui est propre à l'outil lui-même. Par exemple, si tu veux, si tu veux organiser ta recherche d'appart avec Trello, par exemple, bon, bah, tu seras quelque part enfermé, entre guillemets, dans un certain paradigme pour structurer l'information qui va être un tableau qui contient lui-même des colonnes, qui contiennent elles-mêmes des cartes, qui peuvent elles-mêmes contenir des checklists, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que au moment où tu vas décider de structurer ton contenu, alors même que tu n'as aucune idée de ce qui pourra devenir à l'avenir, en fait, le choix de structure que tu vas faire au départ, eh ben, ça va te poser potentiellement de gros problèmes un peu plus tard quand ton projet sera plus mature et au moment où tu voudras faire évoluer la structure de ton contenu, tu vas te retrouver en fait bloqué par les contraintes de l'outil lui-même et la décision arbitraire qu'il aura pris au niveau de sa structure. Et c'est ça qui est incroyable avec Notion, c'est qu'avec Notion, t'as pas ces problèmes. Parce qu'en fait, tu peux très facilement modifier ta structure à mesure de l'avancée et de la maturité de ton projet, quoi. Et ça, c'est énorme parce que tu peux vraiment laisser libre cours à ta créativité et à tout ce que tu veux écrire sans jamais avoir à réfléchir aux questions de structure documentaire, quoi. Et donc moi, typiquement, j'ai des tonnes de projets qui ont commencé comme des simples listes à puces dans un document tout simple, quoi, et qui, au bout de quelques années, sont devenus des bases de données énormes avec des tags et des filtres dans tous les sens. Et en fait, ça aurait jamais été possible si j'avais dû décider dès le départ de la structure finale, tu vois. Et c'est ça qui est génial avec Notion, c'est que ça te permet d'éviter ces gros problèmes de ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle de dette documentaire, quoi. Et ça, cette flexibilité-là, elle change vraiment tout quand tu t'intéresses aux problématiques de gestion de contenu au sens large, quoi.
Est-ce que tu pourrais nous présenter justement des cas d'usage avec Notion, soit les tiens ou certains des tiens, ou alors ceux que tu as pu voir sur Internet?
Il y en a tellement. Enfin, moi, par exemple, je gère mon ce qu'on appelle le personal CRM, donc un espèce de carnet de contact amélioré de CRM personnel, quoi. Je gère mon habit tracker, c'est-à-dire mes habitudes quotidiennes que j'essaie de faire, des trucs que j'essaie de faire tous les jours, des trucs plus classiques sur la gestion de projet, les notes. Je m'en sers aussi pour archiver, par exemple, je sais pas, ma collection de jeux vidéo, de livres, toutes mes notes sur mes livres, mes lectures, mes notes, mes projets, suivre mon budget. Je m'en suis servi pour écrire mon livre, pour organiser mon mariage. Je m'en sers parfois en tant que CMS, c'est-à-dire de mettre en site. C'est une des manières les plus simples de mettre du contenu en ligne qui a une bonne tête sans avoir à toucher à la moindre ligne de code. Donc, c'est, ouais, c'est pas évident de partir comme ça, mais moi, je dirais que je m'en sers un peu comme ce que pas mal de gens commencent à appeler leur second cerveau, c'est-à-dire qui vraiment un espèce de carnet de notes surpuissant sur lequel on peut compter et qui va servir à archiver tout... Tout ce qui me passe par la tête, tous mes projets, toutes les informations que je veux garder et gérer dans ma vie, quoi.
Alors, il y a d'autres outils, je vais appeler ça de gestion de documents poussés. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme pour décrire ce que peut faire Notion, mais voilà, et puis surtout ouvert, hein, avec cette capacité à aller s'intégrer avec d'autres outils et tout. Moi, je pense notamment à Coda, que j'ai un peu utilisé aussi sur différents projets. Quel conseil tu donnerais, toi, finalement, pour faire ton choix entre ces différents outils? Comment est-ce qu'on peut un peu les distinguer et identifier celui qui peut mieux nous correspondre? Ouais.
Non, c'est clair, il y en a plein d'autres. J'essayais justement de les lister à la fin de mon article et c'est devenu un marché très dense parce que tout le monde a besoin de ça et il y a beaucoup d'approches qui sont possibles. Comment faire son choix? Moi, je pense comme toujours, le plus important, c'est de tester, quoi. C'est de voir quels outils correspondent un peu à sa sensibilité personnelle en termes de design, de touche, de sensibilité, quoi. Et tester si possible avec de vrais projets, quoi, genre du vrai contenu. Et pour moi, il n'y a que dans ces conditions-là qu'on peut voir un peu si c'est pertinent pour soi ou pas. Et le deuxième truc, ce serait d'essayer de penser un peu long terme. Donc, c'est des choix d'outils assez structurants parce que, enfin, ouais, typiquement, c'est quand même assez critique de mettre tous ces documents, toutes ces notes, tout ce que j'appelle justement mon second cerveau. C'est toujours un peu un pari sur le futur, quoi. On n'est jamais sûr à 100%, mais il faut essayer de choisir un acteur qui est là pour durer et qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, quoi. Donc, tu as certains qui vont te dire, qui vont être assez extrêmes sur le sujet et qui vont te dire que la seule manière de vraiment traverser les époques, c'est de tout garder au format texte brut. Et, d'ailleurs, l'histoire montre qu'ils ont relativement raison, mais je pense que voilà, il faut essayer de trouver un équilibre entre profiter des fonctionnalités un peu plus modernes, propres à certains outils incroyables comme Notion, tout en s'assurant que ça ne compromette pas trop la pérennité de ces données et vraiment des documents personnels à long terme. Donc, je pense que ça me semble important d'avoir ça en tête au moment de choisir ce genre d'outils.
Alors, ces outils-là peuvent paraître un peu complexes, hein, parfois de prime abord, même si on disait Notion, c'est une page blanche, donc a priori, rien de plus simple, mais les possibilités sont tellement immenses, presque infinies. Par quoi on commence, du coup, quand on a décidé de se lancer dans Notion? C'est quoi, pour toi, un peu les premières étapes, un peu de base, qui permettent de bien appréhender le produit et qui vont permettre de bien s'en saisir et de l'utiliser après correctement au quotidien? Par quoi on commence quand on a décidé de se lancer dans Notion?
Je sais pas si c'est complexe, mais c'est vrai qu'on peut être potentiellement un peu perdu quand on commence, quoi. Il y a tellement de possibilités que on sait pas trop par quelle boule prendre. Voilà, c'est un peu le revers de la médaille d'avoir un outil aussi flexible. Heureusement, pour moi, ils ont plutôt bien traité ce problème avec, en fait, ils mettent à disposition des modèles de pages et de documents, donc ils proposent directement dans le produit ou même directement sur leur site marketing, en fait, sans créer de compte. En fait, on peut vraiment aller sur notion.so. En fait, vous pouvez vraiment jouer avec le produit directement depuis leur site, quoi. Ça, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça dans beaucoup de produits, quoi. C'est vraiment cool. Et ça permet vraiment d'avoir des cas d'usage concrets sur OK, à quoi ça peut me servir ce truc qui a l'air de faire tout. Et là, ça donne vraiment des cas d'usage concrets en fonction de qui on est, si on est une startup, un étudiant, enfin voilà, n'importe quoi. Et vraiment, le travail qu'ils ont fait sur les templates, enfin les modèles en français, pour moi, il est assez impressionnant, quoi. Ce serait assez dommage de s'en priver quand on découvre un outil comme ça.
Ok, et effectivement, simplement aller creuser les templates proposés et regarder le site permet d'avoir une bonne idée de ce qu'on peut faire avec Notion. Au-delà de cet outil-là, au-delà de Notion, c'est quoi les grandes tendances, toi, que tu observes aujourd'hui dans le no-code?
Moi, je pars toujours de mes propres usages, donc j'ai pas non plus passé des années à faire des benchmarks sur tous les outils no-code, etc. J'ai pas une expertise particulière là-dessus, donc je sais pas si mon avis est très intéressant, mais il y a un truc quand même qui me semble arriver dans pas mal d'apps dernièrement, c'est l'approche keyboard first, on va dire, c'est-à-dire une intégration assez à la fois poussée et didactique des raccourcis clavier au sein de son application pour vraiment les utiliser plus efficacement. Donc ça surfe sur le succès d'une boîte comme Superhuman, je ne sais pas si tu connais, donc pour qui c'est assez central dans la proposition de valeur. Et il y a pas mal d'apps qui ont l'air de surfer là-dessus, je pense à Linear par exemple. Donc je ne sais pas si c'est une tendance qui va perdurer, mais en tout cas moi j'en suis assez ravi parce que les raccourcis clavier c'est assez central dans ma vie pour être plus efficace au quotidien. Donc, ouais.
Et du coup, c'est quoi tes outils no-code préférés à part Notion? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as pu utiliser un peu, tester et que tu peux recommander?
Du coup, avec le côté all-in-one qui fonctionne de Notion, ça m'évite en fait d'en utiliser pas mal d'autres apps no-code potentielles concurrentes, genre Airtable par exemple. Le périmètre de Notion est tellement grand que voilà. Sinon j'aime beaucoup Card, donc Card avec deux R là, pour les landing pages ou les sites statiques, ça marche vraiment très très bien pour éviter de trop rager sur du CSS. Et à part ça, je sais pas, il y a les incontournables, je sais pas, sur l'automatisation, les Zapier, Integromat, IFTTT, voilà, des trucs assez assez incontournables. Et après, je ne sais pas si Alfred peut être considéré comme un outil no-code à proprement parler, je ne suis pas sûr. Mais enfin, je suis obligé de le citer parce que je l'utilise 250 fois par jour et c'est vraiment c'est l'outil qui m'a fait gagner le plus de temps depuis que j'utilise un ordinateur. Donc ça se compte vraiment en centaines d'heures, donc j'étais obligé d'en parler.
Donc Alfred, c'est un outil qui est disponible sur Mac. Je ne sais pas si c'est disponible sur PC.
Mac uniquement.
En fait, c'est comme un... Ça vient remplacer le moteur de recherche Spotlight un peu là qu'on a dans macOS et ça permet d'aller faire tout un tas de commandes, soit de la recherche de documents, mais lancer des commandes et automatiser des tâches directement sur son OS quoi.
Exactement, ouais, c'est y a beaucoup de gens qui le décrivent comme un Spotlight on stéroïde quoi. C'est vrai que ça va beaucoup beaucoup plus loin que ce qu'on s'imagine généralement avec ce genre de ce qu'on appelle un lanceur en fait. Donc ça te permet de lancer tout un tas de trucs et de gagner beaucoup de temps sur une multitude de micro tâches comme ça où c'est toujours le truc, ça paraît un peu ridicule en fait quand tu prends les trucs une à une, mais en fait elles se répètent tellement des dizaines ou des centaines de fois par jour que les effets cumulés sont énormes quoi sur le fil des années et ça enlève tout un tas de micro frictions pour une multitude d'actions aussi basiques que ouvrir un fichier, ouvrir une page web, copier-coller une URL, enfin voilà, tonnes de trucs. Donc c'est pareil, c'est pas ultra simple à pitcher. Et c'est pour ça que, pareil, j'ai essayé de faire un article qui essaie de faire prendre conscience aux gens de la puissance d'un outil comme ça. Mais c'est vraiment le truc. Je te dis, j'ai regardé les stats là tout à l'heure et je suis à 250 fois par jour. Je sais pas s'il y a beaucoup de trucs qu'on utilise 250 fois par jour, quoi.
C'est énorme. Mais c'est intéressant de ranger ça dans la catégorie du no-code parce que je l'avais jamais vu sous cet angle, mais t'as pas tort. Parce que pour réaliser beaucoup de ces actions qu'on peut faire avec Alfred au quotidien, avant ou sans Alfred, il aurait fallu peut-être coder certaines macros, certaines automatisations, utiliser un outil comme Automator, par exemple, sur Mac, tant d'automatiser certaines tâches, etc. Et avec un outil comme Alfred, tout ça est simplifié et on peut le faire sans coder. Donc, écoute, je trouve ça assez pertinent.
Peut-être le parallèle est un peu osé, j'en sais rien, mais c'est vrai que dans Alfred, tu as toute une partie workflow, en fait, où tu as des gens qui mettent à disposition où ils vont vraiment coder, pour le coup, pour faire des workflows. Et quand tu es, ça revient sur un peu ce que je disais au début, et quand tu aurais été incapable de coder le truc toi-même, mais que tu as à disposition comme ça des workflows qui t'automatisent des tâches, à mon avis, c'est ça qui m'a fait un peu faire le lien avec l'approche qu'on peut retrouver dans les outils no-code, même si effectivement c'est peut-être pas le truc auquel on va penser en premier par rapport à un Webflow ou les autres outils no-code bien connus quoi.
C'est quoi tes blogs, tes chaînes YouTube, je sais pas, tes newsletters que tu pourrais recommander autour du no-code, soit autour de Notion en particulier, ou si tu as d'autres ressources que tu suis pour te tenir un peu au courant de ce sujet-là. C'est quoi les ressources que tu nous conseilles d'aller suivre?
Bon, bah, y a un projet qui s'appelle Le Contournement qu'on a déjà dû citer plein de fois dans un podcast. C'est vrai qu'ils font des trucs intéressants sur le sujet. Moi, je m'intéresse, pareil, sur Notion, il y a vraiment beaucoup de choses. Rien que vous tapez sur YouTube, il y a plein de gens qui vont prendre 5 heures à vous expliquer leur Notion Setup 2020, etc. C'est vraiment très riche. Il y a aussi des sites de templates, justement, qui aident à résoudre ce problème de « j'arrive dessus, je fais quoi ?» je sais pas, là j'ai en tête Notion VIP, Notion.vip, etc. Non, en fait, moi je m'intéresse pas spécifiquement au no-code, je m'intéresse plutôt aux outils numériques au sens large, quoi. Et du coup, les gens qui ont fait le site bien connu Product Hunt ont récemment sorti un truc qui s'appelle Your Stack. Et qui permet à tout le monde de partager un peu les outils qu'ils utilisent, donc d'où le Your Stack, tu partages un peu ta stack d'outils. Et ça, pour moi, c'est vraiment un bon endroit pour découvrir un peu des outils sympathiques que je connaissais pas forcément, ou voir comment certaines personnes utilisent tel truc. C'est une initiative que je trouvais pas mal dernièrement.
Et est-ce qu'il y a également des gens que tu conseilles de suivre autour de ces sujets-là, soit autour de la découverte de nouveaux produits, ou des gens qui peuvent être très experts de Notion ou d'autres outils no-code et qui sont intéressants à les suivre? C'est qui un peu pour toi les personnes clés à qui on doit s'abonner aujourd'hui?
Là, sur le no-code, récemment, j'ai vu que l'ami Patrice Cassard, donc créateur de lafraise.com, Archiduchesse, Superbécane, tout ça... il est en train de faire un bon tour d'horizon de tous les outils no-code, justement. Donc, il a fait ça sur un site qu'il a mis en ligne qui s'appelle nocode.pizza, je crois. Et je pense que ça vaut le coup d'œil si on s'intéresse à toute cette mouvance-là. Donc, c'est un truc qui est évidemment lui-même fait en no-code. Ça doit être j'ai oublié la stack derrière, mais ça doit être un Airtable connecté avec je sais pas comment un autre truc qui permet, enfin voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant de jeter un œil à ça.
Il fait une grande bibliothèque d'outils,
ouais, c'est ça.
En présentant un peu les possibilités, mais succinctement de chacun des outils, mais c'est vraiment un grand catalogue. Mais effectivement, sur Twitter, il passe beaucoup de temps là maintenant à partager un peu ses recherches et ce qu'il est en train de découvrir et les cas d'usage qu'il identifie sur chacun de ses outils. Donc ça peut être intéressant d'aller le suivre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu nous conseilles de suivre aussi?
Moi j'adore lire les blog posts de gens qui m'expliquent de manière ultra précise comment ils utilisent tel ou tel outil obscur, machin. Vraiment je prends beaucoup de plaisir à lire des trucs comme ça, et c'est un peu ce que j'essaie de faire à mon échelle avec mes articles sur mon site. Et là, par exemple, j'ai un gars que j'aime bien qui s'appelle Nikita Voloboev, qui doit pas être connu, et qui partage plein de choses hyper intéressantes sur ses outils, son travail. Donc, enfin, ça va paraître un peu niche comme ça, mais c'est vraiment du bonheur pour les productivity nerds dans mon genre, quoi.
Bon, super, on va aller voir ça. Et toi, si on veut te suivre et suivre ce que tu fais autour du no-code ou en tout cas de Notion, où est-ce qu'on peut aller?
Le mieux, c'est, de taper mon nom sur Internet ou d'aller directement sur jonathanlefebvre.com, où j'essaie de centraliser tout ça le plus clairement possible. J'écris pas mal d'articles sur jonathanlefebvre.com/outils au pluriel, justement. Voilà, sinon je suis sur Twitter, qui reste mon réseau social de prédilection, et donc mon nom d'utilisateur, c'est Jody Roga, comme ça se prononce.
Super, et voilà. Écoute, on va aller à la fois sur ton site et sur Twitter pour te suivre. Un très grand merci Jonathan d'être venu dans la NoCode Family, et puis à très bientôt, j'espère.
Merci à toi pour l'invitation, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de la No Code Family. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'imagine que le sujet vous a intéressé. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas non plus à nous laisser 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la No Code Family. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut !